France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre des Solidarités et de la Santé. Question réaction au standard sur les réseaux sociaux et notre application mobile. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour Nicolas Demorand. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Commençons par les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues hier et avant-hier. Le président de la République qui clôturait ces assises a fait un certain nombre d'annonces qu'on va détailler avec vous dans quelques minutes. Mais un mot du contexte. L'épidémie de Covid a provoqué une très forte augmentation des problèmes psychiatriques des Français. Tous les indicateurs sont en hausse. 15% des Français montrent des signes d'un état dépressif en hausse. 23% des signes d'un état anxieux en hausse. Et 10% ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année en hausse également. Diriez-vous aujourd'hui, Olivier Véran, que les Français vont mal, que beaucoup traversent une crise psychique, existentielle, profonde, accrue par le Covid?
En novembre 2020, j'avais consacré une des fameuses conférences de presse à l'état de santé mentale et psychologique des Français. Pourquoi? La peur d'abord du virus, la peur de la mort, la peur de la maladie, le deuil qui a frappé énormément de familles dans notre pays, le confinement, l'arrêt des activités, la peur pour son activité professionnelle, la peur pour la scolarisation de ses enfants, des bouleversements jusque dans l'intimité de l'ensemble des Français. D'ailleurs, on parle des Français, mais c'est la même chose dans la plupart des pays du monde qui ont été frappés par cette pandémie et avec des mesures de confinement. Et donc, le diagnostic, nous l'avions fait par anticipation, avec d'ailleurs des mesures qui avaient été prises. Souvenez-vous, le chèque psy pour les étudiants, le chèque psy pour les enfants. J'avais, dans le cadre du Ségur de la Santé, renforcé les équipes de psychologues, d'infirmiers spécialisés, de médecins, les cellules mobiles, y compris d'ailleurs à destination des soignants eux-mêmes, dont le stress avait atteint un niveau élevé. On parlait de la première ligne pendant la guerre contre le virus.
Donc, beaucoup vous ont reproché d'avoir tardé à l'allumage. Il y a eu un certain nombre d'annonces d'Emmanuel Macron hier qui ont été bien accueillies. Mais vous dites, le diagnostic, on le fait en novembre 2020. Les annonces, elles arrivent en octobre 2021. Est-ce que vous avez tardé à l'allumage, qui a fait dire à beaucoup de psychiatres qu'on ne va pas dans le mur, que nous sommes déjà dans le mur, que c'est catastrophique, que les mois qu'ils viennent de vivre ont été très durs?
En fait, il y a deux choses différentes. D'abord, je vous ai parlé des mesures d'urgence que nous avions prises pour venir en aide aux Français les plus fragiles du point de vue psychologique pendant la crise. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable des équipes en psychiatrie et en santé mentale, en établissement comme en ville, qui ont tenu bon. Et d'ailleurs, c'était très compliqué de gérer une pandémie de Covid avec des mesures d'isolement en hôpital psychiatrique. Chacun peut le comprendre. Ce qu'on peut constater, c'est que nos hôpitaux ont tenu. Ensuite, ça fait pas, Léa Salamé, quelques mois. Ça fait 30 ans. En réalité, c'est ce que nous ont dit hier.
Absolument,
les associations de patients.
Même 40 ans que la psychiatrie est maltraitée, tout simplement.
Ça faisait donc des décennies que les associations, ce que nous ont dit les associations de patients, de familles, de psychiatres, de professionnels hier, ça faisait des décennies qu'ils attendaient un grand discours sur l'état de santé mentale. La reconnaissance par le président de la République lui-même de la paupérisation de la psychiatrie dans notre pays, du manque de moyens, des efforts trop importants qui ont été demandés à ce secteur. Et un constat qui a été partagé, qui a été posé par le président de la République, c'est la première fois qu'on a un président en exercice qui fait un discours comme ça, avec des annonces très fortes, avec trois volets. D'abord la prévention et l'information en santé mentale, ensuite les soins en eux-mêmes et l'orientation des patients, et enfin toute l'innovation et la recherche qui est un segment important de la psychiatrie.
Mais sur le constat qu'a fait effectivement Emmanuel Macron, il a reconnu la crise de la psychiatrie, les faits sont là, a-t-il dit, les moyens mis n'ont pas été à la hauteur, le passage de 120 000 lits de psychiatrie à 40 000 a parfois été brutal, c'est le mot qu'il a employé. Norbert Skurny, qui préside l'intersyndicale de défense de la psychiatrie publique, dit que pour la psychiatrie en France, il faut tout restaurer, il faut un grand plan avec des milliards. Ce plan-là n'a pas été annoncé hier, Olivier Véran. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait dès lors que le diagnostic est partagé par tous?
D'abord, il y a eu des moyens très conséquents qui ont été annoncés hier par le président de la République. Quand vous créez 800 postes supplémentaires dans ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, ce sont des moyens conséquents. Des centaines d'autres postes sont créés à travers des équipes mobiles, à destination des publics fragiles, précaires. Un renforcement comme jamais il y en avait eu, à destination de la pédopsychiatrie pour la santé mentale de nos enfants. Tout le grand plan de prévention, d'information, le numéro national de prévention du suicide qu'on attendait dans notre pays depuis des années et des années.
Ce sera quoi le numéro ?
80 millions d'euros sur la recherche et l'innovation dans notre pays en santé mentale. Ce sont des moyens conséquents, c'est quasiment 2 milliards supplémentaires qui ont été annoncés sur 5 ans. J'étais hier présent au discours du président de la République, il y avait du soulagement et des sourires sur les visages de l'ensemble des psychiatres qui étaient présents.
Quel va être le numéro, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer, quel va être le numéro vert que vous avez annoncé qui sera donc disponible et accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
et vendredi.
Est-ce qu'il y aura suffisamment de gens derrière, parce que c'est ce que dit le psychiatre Mathieu Bellassem, on peut mettre tous les numéros de téléphone qu'on veut, s'il n'y a pas de gens pour être là auprès des personnes en difficulté, ça ne marchera pas.
Pour la première fois dans notre pays, il y aura un numéro de téléphone que l'ensemble des Français pourra contacter, c'est le 3114. Il sera ouvert à compter de vendredi dans la journée et il permettra aux Français qui traversent un moment très difficile, avec parfois des idées noires, des pensées morbides, une tristesse, une dévalorisation de soi-même ou de profondes angoisses et qui ont peur, de pouvoir trouver immédiatement une réponse à leur malaise. En contactant ce numéro, ils tombent sur des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, des psychiatres, des infirmiers spécialisés, des psychologues qui sont formés pour cela. Ça a été un énorme travail.
Il y aura quelqu'un à toute heure qui répondra.
Oui.
Au 3114.
Oui, vous savez, c'est la première cause, la deuxième cause de mortalité chez les jeunes dans notre pays, le suicide après les accidents de la route. Je veux dire, il était absolument indispensable de mettre des moyens. C'est un projet qui part de loin, le numéro national prévention suicide. Ça vous paraît peut-être un numéro de téléphone comme ça. En réalité, le temps de formation, d'identification, de financement, de l'ensemble des professionnels qui répondront à la détresse des Français, ça part de très très loin. C'est une nouvelle importante. Et une nouvelle étape dans notre pays dans la lutte contre la prévention du suicide.
Tout est lié, Olivier Véran. Il y a la vraie question aussi du recrutement, la crise des vocations. Au terme des épreuves où les médecins choisissent leur spécialité, 71 postes de psychiatrie n'ont pas trouvé preneur. Radouane Aoui, psychiatre au centre hospitalier, Gérard Marchand à Toulouse, dit que 30% des postes sont vacants dans ce secteur. Comment comptez-vous rendre ce métier attractif, convaincre les jeunes médecins de choisir psychiatrie en spécialité?
D'abord, la psychiatrie, c'est une vocation. Vraiment par excellence. Au sein de la médecine, qui est déjà en elle-même une vocation. Se destiner à prendre en charge la santé mentale, la souffrance psychologique de ses concitoyens, c'est une véritable vocation et je la salue. Ensuite, c'est un métier qui n'est pas facile. Et qui, en plus, jusqu'ici, était exercé dans des bâtiments souvent vétustes, avec des manques de moyens. Nous y remédions et nous y apportons une réponse forte, y compris d'ailleurs dans la reconstruction d'hôpitaux. Ça, c'est un objectif du Ségur de la Santé. Ensuite, nous augmentons le nombre de médecins en formation, le nombre d'étudiants actuellement en formation. J'ai annoncé le passage de la formation d'internat des psychiatres de 4 à 5 ans, de manière à reconnaître la complexité, la spécificité de leurs études. Et nous les accompagnons avec des moyens nouveaux et supplémentaires. Et nous leur donnons des responsabilités au sein des institutions. Avec le Ségur, nous leur donnons aussi la possibilité de créer des projets, de les monter, de les réaliser et de les évaluer.
Voilà. En tout cas, on voulait passer du temps sur ce sujet qui est majeur.
Et on va y revenir avec les auditeurs.
Et on va y revenir avec les auditeurs parce qu'il y a des questions. Et on rappelle le numéro vert que vous venez nous annoncer. Ce sera le 31-14. Il y a beaucoup de questions d'actualité également qu'on va décliner avec vous. Et d'abord, le problème du crack à Paris, dans le nord-est de Paris. Entre 50 et 100 consommateurs de crack ont été déplacés le week-end dernier du quartier des Jardins d'Éole vers un autre lieu en lisière d'Aubervilliers et de Pantin. Un mur a été érigé pour empêcher que les consommateurs de crack se déplacent. Un élu de Pantin proche de Valérie Pécresse dit au Monde, ce mur c'est le mur de la honte, c'est un terrible message envoyé à la banlieue. D'un côté il y a la ville riche, de l'autre les prolétaires, c'est cela la symbolique. Ce mur vous choque-t-il ?
Je travaille, nous travaillons en collectif gouvernemental à des solutions qui soient cohérentes, efficaces et alternatives à tout cela. J'étais hier par exemple avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour envisager de nouvelles mesures pour soigner, accompagner des personnes qui souffrent d'une addiction terrible. L'addiction au crack est l'addiction la plus terrible qui existe sur Terre.
Ce mur vous choque-t-il ?
Je vous réponds, plutôt que de vous donner mon ressenti personnel, sur ce que je fais depuis des mois et des mois sur ce dossier extrêmement compliqué. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, nous allons prolonger et amplifier les démarches qu'on appelle les haltes soins addiction, qui ne sont pas des salles de shoot, mais qui sont des endroits dans lesquels nous permettons à des personnes marginalisées, à la rue, qui aujourd'hui se droguent, s'injectent ou sniffent dans la rue, d'aller dans un lieu où il y a un accompagnement médical et médico-social et où on inscrit les consommateurs sur la voie du sevrage. J'étais hier matin avec la maire de Paris au téléphone pour discuter avec elle, lui rappeler que l'État attendait des propositions concrètes, cohérentes, acceptables par les riverains. C'est un sujet très important.
J'ai l'impression que vous passez la patate chaude depuis des semaines.
Ce serait très mal me connaître, Léa Salamé.
Mais oui, mais vous avez donné votre accord, contrairement à ce que disait Gérald Darmanin, qui est contre les salles de shoot ou les salles de consommation de drogue.
Il n'y a pas pour ou contre, Léa Salamé, c'est la loi. La loi dit qu'on peut développer et déployer des haltes soins addiction.
Il y avait deux lignes au gouvernement.
Mais il y a des conditions à remplir.
Et pourquoi on n'arrive pas à ouvrir ces salles de consommation? Vous dites que c'est ça la solution. Pourquoi on n'arrive pas à les ouvrir à Paris? Pourquoi on n'arrive pas à gérer le cas d'une cinquantaine de consommateurs de crack? Pourquoi c'est si compliqué?
Je suis en train de vous dire que côté gouvernement, nous avons entériné des moyens dans la loi pour pouvoir financer ce type de halte soins addiction et que je mets à disposition des équipes sanitaires et médico-sociales pour sevrer les consommateurs qui sont aujourd'hui à la rue. Que j'ai demandé à la maire de Paris qui m'a dit qu'elle y travaillait et nous avons des réunions de travail. Et croyez-moi, le Premier ministre est extrêmement impliqué sur ce sujet-là. Qu'il y ait des propositions de lieux cohérents, c'est-à-dire pas à 15 mètres d'une crèche ou d'une école maternelle, et qui permettent, en lien avec les acteurs du soin, de pouvoir déployer ce type de structure.
Sur ce thème, Barbara est au standard. Bonjour Barbara, bienvenue.
Bonjour à toute l'équipe de France Inter et merci pour votre travail. Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Je voulais savoir quelle était la part que prenait l'État, car effectivement, comme Léa Salamé, vous sautez la patate chaude. Depuis des années, depuis, ça ne fait pas 3 ans, ça fait 30 ans. Vous n'êtes pas les seuls responsables politiques à faire le ping-pong. Nous, on est les riverains et on n'en peut plus. Et c'est un problème de santé publique avant tout. On aimerait savoir ce que fait l'ARS. On aimerait savoir ce que fait la mise avec. Quelles sont les initiatives qui sont prises? D'autant plus que je sais que le parcours le problème du crack, c'est qu'il n'y a pas de drogue de substitution, enfin de médicaments de substitution.
Ouais.
Donc comment faire pour faire un parcours de santé complet?
Merci Barbara pour cette question. Barbara Riveraine, donc, qui vit dans le 19e arrondissement de Paris. Olivier Véran vous répond. La question est simple. Quelle est la part prise par l'État?
Mais encore une fois, sur les techniques de réduction des risques et d'accompagnement des publics très éloignés et qui consomment des drogues très dangereuses pour lesquelles, elle a raison Barbara, il n'y a pas de sevrage existant, de modalités de substitution. La France avait pris 40 ans de retard. Je veux dire, la première salle de consommation à moindre risque à Genève en Suisse, elle a plus de 40 ans. J'étais moi-même député en 2015, rapporteur de la création de la première salle de consommation à Strasbourg et les choses se passent très bien. On a donc la démonstration que dans notre pays, ce type de structure d'accompagnement au sevrage pour éviter l'insécurité, éviter l'insalubrité et mieux accompagner les personnes les plus précaires fonctionne. Il reste encore une fois aujourd'hui, tout est sur la table, à identifier le ou les lieux qui vont nous permettre, côté État et côté Agence régionale de santé, de financer ces structures.
Il en faudrait combien à Paris, démarche, des lieux de ce genre?
On est dans une démarche constructive. Maintenant, ce n'est pas à nous, au gouvernement, de faire, je dirais, tout le travail auprès des riverains et des élus locaux. C'est évidemment le travail des maires, des communes.
Mais comme ministre de la Santé à Paris, il y a une salle de ce type, il en faudrait combien?
Nous prévoyons la construction dans le financement de 2 salles supplémentaires par an à l'échelle du pays. Donc il y a d'autres communes qui sont en train d'y travailler. Alain Juppé, en son temps, à Bordeaux, avait commencé à initier ce type de structure. On n'est pas dans un débat politique, on est dans un débat de bon sens, face à une situation extrêmement difficile et très dure à vivre pour les riverains.
Quelques mots sur le Covid. Les dernières données publiées par Santé publique France lundi soir confirme une décrue de l'épidémie sur tous les critères, nouveaux cas, hospitalisation, réanimation. Est-ce que l'épidémie est derrière nous ou partagez-vous l'inquiétude tout de même d'Arnaud Fontanet du Conseil scientifique qui dit que ce recul de l'épidémie, on l'avait déjà vu avant la deuxième vague et qu'avec l'arrivée du froid, il faut s'attendre à un redémarrage de l'épidémie à l'automne. Soulagé ou encore tout de même un peu inquiet?
Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet rentrée scolaire, il n'y a pas eu d'effet rentrée universitaire, il n'y a pas d'effet début d'automne, il n'y a pas de nouveaux variants qui soient résistants au vaccin. Donc pour l'instant, la trajectoire est bonne, c'est-à-dire une décroissance importante, rapide, continue du virus, c'est tant mieux, dans notre pays et dans la plupart des pays qui nous entourent. Je constate que la vaccination de masse a protégé notre pays. J'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui sont appelés à avoir la 3e dose de vaccin, c'est-à-dire les personnes âgés de 65 ans et plus ou porteuses de maladies chroniques à aller se faire vacciner sans délai. On est environ 1 million de Français qui ont bénéficié de ce rappel.
Il y a 1 million de Français qui ont fait la 3e dose.
Oui.
Et il y a 18 millions de personnes qui sont concernées.
Oui, mais pas 18 millions d'un coup, parce que vous savez, Léa Salamé, il faut être à 6 mois de la deuxième injection. Donc on est entre 3 et 4 millions de Français à date qui sont appelés. Donc on est entre 25 et 30% en moyenne de troisième dose. Ce n'est pas suffisant, puisque cette troisième dose, elle vise à protéger des risques de formes graves les personnes qui sont encore à risque. Plus vite on fera cette troisième dose chez le public appelé à se faire protéger, plus vite on augmentera nos chances de sortir de la pandémie.
Mais pourquoi alors prolonger l'application du pass sanitaire au-delà du 15 novembre?
D'abord, le pass sanitaire est un outil qui, après avoir été contesté par une partie de la population, est globalement très très bien accepté. On n'a pas vocation à vivre éternellement avec le pass sanitaire, je vous le dis très tranquillement, vous connaissez mon opinion sur la question.
Mais pourquoi vous le prolongez ?
Parce qu'il y a encore 5000 contaminations par jour, parce que le pass sanitaire a permis de rouvrir des théâtres, de rouvrir des cinémas, de faire fonctionner en plein l'activité touristique, de développer les restaurants et les bars, et qu'aujourd'hui il est prématuré de tout arrêter. Ce qui n'empêche pas de se poser la question d'évolution à venir, à court ou moyen terme. Ça fait l'objet, encore une fois, de discussions avec les scientifiques, d'échanges directs avec le président de la République. Pour l'instant, nous restons encore sur une ligne qui est 5000 contaminations par jour. L'épidémie n'est pas terminée.
Un mot sur la Guyane. Seuls 30% des personnes de plus de 12 ans ont reçu les deux doses du vaccin. La Guyane, où le président de l'Assemblée locale, comme l'ancienne ministre Christiane Taubira, refuse d'appeler officiellement à la vaccination, nous disait Florence Paracuelos dans le journal de 8h. Que dites-vous ce matin aux habitants de la Guyane ?
Je leur dis de se faire vacciner. Je leur dis de se protéger. Je leur dis que la vague qui les a frappés, elle peut revenir. S'ils ne sont pas protégés, s'ils ne sont pas vaccinés. C'est absolument indispensable et j'appelle l'ensemble des responsables publics, mais aussi des acteurs privés qui comptent en Guyane et qui ont une parole qui est très écoutée, à agir en responsabilité. Vous savez, j'ai eu beaucoup de respect pour Christiane Taubira comme ministre, comme politique. Vous savez d'où je viens, quelle était ma famille politique. J'étais effaré d'entendre cette incapacité, cette espèce de paralysie, cette peur, pardonnez-moi, une forme de lâcheté qui consistait à dire « moi je suis vacciné mais je n'ai pas de conseil à donner ». Vous imaginez dire « moi je porte la ceinture mais je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire aux Français de mettre leur ceinture de sécurité quand ils conduisent » ou « moi j'évite de boire avant de prendre le volant mais enfin chacun fait comme il veut ». Non, la vaccination c'est un outil de santé publique éprouvé qui a démontré son efficacité et quand on aime profondément la Guyane, et je suis sûr que c'est ton cas à Christiane Taubira, mais quand on aime profondément la Guyane et les Guyanais, on prend ses responsabilités, on leur dit « protégez-vous ».
Olivier Véran, je ne sais pas si ce sujet est remonté au niveau du ministre que vous êtes, mais il y a un sujet dont beaucoup de femmes parlent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis les vaccins. 3 semaines de retard des règles super douloureuses, des règles plus abondantes, un cycle complètement perturbé. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes témoignent de troubles du cycle menstruel très variés, survenus après les injections du vaccin contre le Covid, notamment l'ARN messager et notamment après la deuxième dose. Que dites-vous à ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à se demander si c'est grave ?
Ce que dit l'Agence nationale de sécurité du médicament qui a enregistré un certain nombre de remontées s'agissant de perturbations temporaires bénignes, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être mal vécues, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gravité et rien de définitif qui peuvent porter sur les troubles menstruels effectivement des femmes qui ont eu des vaccinations et des rappels de vaccination. Toutes les données d'ailleurs sont disponibles en transparence sur le site de l'Agence du médicament, sans doute avec une forme de sous-déclaration. C'est que le mécanisme inflammatoire peut expliquer probablement l'apparition de ces troubles. Je le redis, l'ANSM nous dit, et d'ailleurs c'est pareil dans le monde entier, que ce sont des troubles qui sont transitoires, temporaires, qui n'affectent en aucun cas la fertilité, si c'est aussi l'objet d'inquiétude.
C'est aussi l'objet d'inquiétude, et vous savez qu'un des angles des antivax, c'est de dire que le vaccin rend stérile. Or, évidemment, il faut casser ça, et vous jouez la transparence, et c'est très bien, mais c'est vrai que les gynécologues disent qu'ils reçoivent des dizaines d'appels concernant les troubles menstruels que provoque le vaccin. Alors, vous nous dites ce matin que c'est bénin, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
Je vous dis ce que me dit l'Agence nationale de sécurité du médicament, ainsi que les autres agences du médicament des pays qui sont concernés par la vaccination, c'est-à-dire de tous les pays du monde, il y a eu 6 milliards d'injections faites. Il peut y avoir comme, à chaque fois que vous avez un phénomène inflammatoire, même d'ailleurs si vous avez la grippe ou si vous avez un autre virus, le mécanisme inflammatoire en soi peut décaler ou perturber un peu le cycle hormonal qui va suivre. À ce stade, je n'ai aucune information de gravité, aucune hypothèse de conséquences, etc. Mais l'Agence du médicament, par définition, étudie chaque cas avec l'ensemble des experts. Et tout, encore une fois, la France est l'un des seuls pays à le faire. Tout est disponible en transparence sur le site internet.
On est en ligne au Standard d'Inter avec Cyril, psychologue. Bonjour Cyril, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour Monsieur le Ministre. Je voudrais intervenir au nom d'énormément de psychologues libéraux qui étaient dans la rue hier, comme ils l'ont déjà été le 10 juin. On a entendu les annonces du Président de la République concernant le remboursement des consultations. On y est tous favorables, simplement. On a déjà dénoncé et on continue à dénoncer des conditions qui sont totalement inapplicables, inacceptables. La question de la prescription. Les psychologues n'ont jamais été des paramédicaux. On travaille en collaboration avec les médecins, ça a toujours été le cas. mais on a une expertise qui fait qu'on ne peut pas travailler sur prescription médicale. Ça remettrait en cause complètement la question du secret. La question de l'adressage, c'est un vrai problème et ça va poser un grand nombre de problèmes. Et puis aussi la question, bien évidemment, du tarif qui est totalement inconsidéré. 30 euros, ça veut dire qu'après déduction des charges, il y aurait aucune possibilité pour les psychologues de pouvoir avoir un niveau de vie suffisant. Du coup, le projet étant là, j'imagine d'améliorer la prise en soin des usagers, mais ça va provoquer un gros souci, un encombrement. Les psychologues libéraux ne pourront pas du tout répondre à ce genre de dispositif.
Bien reçu, Denis, bien reçu. Merci pour votre intervention. Je précise que le président de la République a annoncé que l'assurance maladie rembourserait dès l'an prochain les consultations de psychologie avec des psychologues pour toute la population à partir de l'âge de 3 ans. Forfait de 8 consultations remboursées. Première séance, 40 euros. Les suivantes, à 30 euros. Pour les faits. Et Denis vous interpelle.
C'est une mesure majeure. Tous les Français âgés de 3 ans et plus pourront désormais, sur adressage, non pas prescription, mais adressage, une différence sémantique, mais c'est important pour les psychologues et je le comprends, sur adressage par leur médecin, pourront aller chez un psychologue, avoir jusqu'à 8 consultations avec des forfaits qui seront renouvelables.
Combien de fois ?
Qui vous aident ? Ce sera renouvelable par l'année suivante, par exemple. Etc. Mais ce qui va permettre...
Année, s'il le faut, la quatrième.
Tout cela va être évidemment décliné progressivement. Etc. Mais oui, retenez une chose, c'est que jusqu'ici, quand vous aviez des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, que ça n'allait pas, ou vous alliez voir votre médecin, qui n'a pas forcément tout le temps à vous consacrer pour faire le point avec vous, ou vous aviez de l'argent et vous pouviez aller payer de votre poche les consultations chez le psychologue, ou si vous ne pouviez pas mettre 40 ou 50 euros dans une consultation, vous vous débrouillez tout seul. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une avancée majeure pour la sécurité sociale. Je voudrais dire à ce psychologue que c'est un adressage et pas une prescription. Je voudrais lui dire que c'est 30 euros une consultation, c'est pas 30 euros de l'heure, la consultation peut être plus courte, et que c'est pour les psychologues, vous savez, il y a des psychologues qui vivent très bien en facturant des forfaits assez onéreux à leurs patients, et il y en a d'autres qui ont une activité qui est extrêmement clairsemée. Je peux vous garantir qu'on a eu un engouement de la profession psycho suite à ces annonces qui est très fort, et un engouement des Français surtout.
Dernière question rapidement, Lynn Renaud était à l'Assemblée nationale hier pour pousser les députés à aller plus loin sur la fin de vie, à voter le droit de mourir dans la dignité. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est un sujet qui touche votre majorité, il y en a beaucoup qui plaident pour, dont Christophe Castaner.
Lorsque j'étais ministre au banc en avril dernier sur une proposition de loi parlementaire issue de la majorité et de l'opposition de gauche, j'avais donné un avis de sagesse, considérant que le moment n'était sans doute pas venu et dans ces conditions d'adopter le texte, mais ne donnant pas un avis défavorable sur cette question qui touche au cœur, à l'intime de millions et de millions de Français.
Faudra le mettre dans le programme d'Emmanuel Macron.
En tout cas, ça fera forcément l'objet de discussions, de travaux. Le président de la République a évoqué la possibilité d'une convention citoyenne. Nous allons voir quelles sont les modalités. J'ai saisi le Conseil consultatif national d'éthique de cette question. Il a commencé à y travailler. Évidemment, c'est un thème sociétal majeur qui aura toute sa place dans une campagne présidentielle.
Une question rapide, c'est une date que vous demande Emeline sur l'application de France Inter. À quand les décrets d'application de la PMA pour toutes ?
Aujourd'hui même.
Aujourd'hui.
Là, en sortant de votre bureau, je vais signer le décret d'application de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. C'est une très bonne nouvelle, très attendue. J'ai rencontré de nombreuses avec Elisabeth Moreno, notamment ma collègue à l'égalité femmes-hommes. Nous avons rencontré des couples de femmes qui ont initié ce parcours. Je me souviendrai toute ma vie de ce couple de femmes qui m'a dit, jusqu'ici, on nous parlait pas français parce qu'on allait aux Pays-Bas. Aujourd'hui, hier, on a passé pour la première fois avec dignité la porte d'un hôpital français. Et les choses ont changé pour nous.
Et voilà Emeline pour votre réponse signée aujourd'hui. Merci Olivier Véran d'avoir été...
le numéro vert.
D'avoir été à notre...
3114.
Voilà, 3114. Merci d'avoir été à ce micro ce matin. La revue de presse arrive.
France Inter.